France Culture.
À voix nue, production Corinne Renoux-Nativelle, cette semaine avec
Delphine de Vigan, écrivaine.
Premier épisode de La Tribu à l'hôpital. Bonsoir Delphine de Vigan.
Bonsoir.
Au fil de vos romans, vous avez imposé votre longue silhouette élégante et votre sourire chaleureux dans les médias, les salons du livre et les librairies. Vous donnez à la littérature un visage et une présence incarnée. Vous êtes l'une des romancières françaises les plus lues depuis le succès de Noé et moi en 2007. On suivit notamment les raz-de-marée de Rien ne s'oppose à la nuit et de D'après une histoire vraie, couronnée du prix Renaudot. Vous écrivez à partir de votre histoire personnelle, ainsi que sur des phénomènes de société que vous analysez avec une finesse et un sens des nuances rares. Vous réconciliez qualité littéraire et grand public dans des livres qui se vendent à des centaines de milliers d'exemplaires. Il nous marque durablement par la sensibilité de votre plume, la justesse de votre observation, à la fois de l'émergence de phénomènes sociétaux et de l'intimité des âmes. Avec une exigence singulière, vous cherchez des formes littéraires nouvelles, tout en vous montrant fidèle à des thèmes présents dans vos textes depuis vos débuts, comme les silences et les non-dits, l'enfance en danger, les violences insidieuses, ce qui broie et ce qui fait tenir debout. Vous écrivez également des scénarios et pièces de théâtre avec ce même goût de donner du poids et une texture à l'invisible, à l'imperceptible. Vous alliez avec élégance les contraires, vous êtes douce et animée, assurée et timide, déterminée et pleine de doutes. Merci vivement de passer cette semaine avec nous.
Merci à vous.
Delphine de Vigan, vous êtes née le 1er mars 1966 à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Pouvez-vous nous parler de vos familles paternelles et maternelles ?
Oula, vaste sujet pour commencer. Oui, je suis née à Boulogne. En fait, je suis née dans une clinique à Boulogne-Billancourt, mais mes parents vivaient dans le 13e arrondissement. À cette époque, je crois que c'était plus ou moins une clinique qui était assez à la mode, et c'est une des raisons pour laquelle ma mère a dû accoucher là-bas. Alors, parler de mes familles maternelles et paternelles, en quelques mots, c'est assez compliqué et assez... je dirais que c'est un terrain un petit peu pas très simple à aborder, en tout cas, dans une interview. Je ne sais pas très bien quoi en dire. Si, ce que je peux dire, et peut-être qui est important dans à la fois dans la construction de la personne que je suis et sans doute de l'écrivaine que je suis, c'est que dans les deux cas, il s'agit de familles nombreuses. Donc, mon père avait, je dis avait parce que malheureusement, beaucoup sont morts aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs. Et ma mère était aussi issue d'une famille de 9 enfants. Donc, dans les deux cas, de deux familles... voilà, oui, nombreuses, avec ou encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de cousins un peu partout, ce qui est assez agréable. Et puis, j'accorde une importance certaine à la famille, donc voilà, ça m'amuse d'avoir un peu d'observer toutes ces ramifications familiales des deux côtés. Du côté de mon père, je dirais une famille assez bourgeoise, mais sans être non plus spécialement fortunée. Et du côté de ma mère, une famille plus bohème, même si ma grand-mère venait, elle, d'une famille plus bourgeoise. Mon grand-père venait d'un milieu très modeste. Voilà ce que je peux en dire.
Et vos parents, qui sont-ils ?
Mes parents, donc, ma mère, je lui ai consacré un roman. Ma mère, c'est une femme qui est morte en 2008 à l'âge de 61 ans. C'est un âge que je vais bientôt atteindre et je dois dire que je vois arriver cette date avec un peu d'appréhension. C'est compliqué parce qu'en fait, je pourrais parler très longuement et de ma mère et de mon père, et en fait, je ne souhaite pas forcément le faire, dans le sens où j'ai quand même toujours cette crainte d'en dire trop, de blesser, surtout la parole médiatique. Je trouve qu'elle est compliquée sur ces sujets, parce qu'on peut avoir et éprouver d'ailleurs un certain plaisir à se livrer, à raconter un peu d'où on vient. Moi, j'aime beaucoup parler de mon travail, j'aime beaucoup réfléchir moi-même à l'écriture et pourquoi j'écris, d'où ça vient, et je sais que c'est intimement lié à l'enfance qui a été la mienne. Et en même temps, j'ai à la fois une espèce de pudeur, de devoir de réserve, qui fait que je me sens en fait très limitée, d'une certaine manière, dans ce que je peux en dire. Enfin, en tout cas, je suis toujours à chercher quelle est la bonne limite, c'est-à-dire trouver un arbitrage entre mon désir de raconter des choses qui me semblent importantes et qui, encore une fois, ont fait de moi l'écrivaine que je suis. Et d'une certaine manière, j'aurais assez envie de le raconter. D'autre part, encore une fois, la peur de blesser, de heurter. Et donc, voilà, je n'ai pas encore vraiment trouvé, à dire vrai, le juste chemin dans cette histoire-là. Voilà. J'ai écrit sur ma mère. Et je crois que tout ce que je peux dire d'elle est en grande partie dans ce livre, pas tout bien sûr, parce qu'il y a des choses que j'ai choisi de ne pas écrire à ce moment-là, mais en tout cas, voilà, le portrait que j'ai dessiné, que j'ai tenté de recréer, de cette femme qui a eu un destin quand même très... Enfin, une vie très marquée par le destin, avec des événements vraiment très traumatisants, très marquants. La femme qu'elle est devenue, la très jeune mère qu'elle est devenue, etc. J'ai essayé de le raconter.
Et alors, Delphine de Vigan, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels parents ils étaient pour vous dans l'enfance ? Ou est-ce que ça rentre dans cette zone un peu compliquée à aborder ?
Ce que je peux en dire, c'est que c'était des très jeunes parents, ce qui était peut-être plus courant à l'époque qu'aujourd'hui. Ma mère avait 19 ans, mon père 22 ans quand je suis née. Comme beaucoup d'enfants de ma génération, je n'étais pas complètement prévue au programme, mais en même temps, pas non plus une mauvaise nouvelle. Je crois que quand ma mère est tombée enceinte, voilà, ils n'étaient pas mariés, ils se sont mariés parce que ma mère était enceinte. Non, je pense pas que c'est à l'époque, c'était pas une mauvaise nouvelle. Ils étaient heureux, ils étaient amoureux. Je me sens tout à fait une enfant de l'amour, et ça, je crois que c'est important dans une vie, dans la manière dont on se construit aussi. Et puis ensuite, ils ont été des parents aimants. Là aussi, c'est quelque chose avec le recul. Je me rends compte que c'est vraiment. Je me suis appuyée là-dessus. Que malgré tout, c'est une chose de vivre des événements. Parfois dur et traumatisant, et j'en ai vécu. Je ne suis pas la seule, bien sûr. C'est une chose de les vivre quand on a été aimé, malgré tout, et une chose de les vivre quand on a manqué d'amour. Et ça n'est pas mon cas, et je crois que c'est très important. Ma mère était une femme fragile, et une mère fragile aussi. Donc, comme je l'ai raconté dans Rien ne s'oppose à la nuit, elle a été hospitalisée pour la première fois quand j'avais 13 ans. Elle a été internée donc à cette époque. Bien sûr que ça a joué sur la mère qu'elle a été. Sa manière d'être mère a été aussi quelque part affectée, altérée par la maladie. Une maladie qui s'est révélée à ce moment-là, mais qui sans doute était déjà plus ou moins présente sous d'autres formes. Et en fait, ce que je peux dire en fait de cette enfance, donc après quand j'ai eu 13 ans, nous sommes partis vivre chez mon père, donc de manière très brutale, je l'ai raconté dans le roman, de manière très très soudaine.
Vous êtes partis chez lui en Normandie, voilà, c'est ça, Delphine de Vigan.
Ouais. Et en fait, ce que je peux dire sans trop en dire, puisque c'est que je crois vraiment que d'avoir eu ces parents là. Ça m'a sans aucun doute rendue extrêmement attentive à l'humeur de l'autre, aux ambiances, aux atmosphères. Dans un cas comme dans l'autre, et c'est vrai aussi en ce qui concerne mon père, voilà, c'était un élément très important de notre vie. Enfin, je vais parler pour moi de ma vie, de savoir de ma vie à l'époque où on a vécu chez lui, de savoir quelle était son humeur. Et ça développe une espèce de sens un peu aigu de l'état de l'autre, de son état émotionnel, de son espèce d'hypersensibilité comme ça au monde aussi. Enfin, encore une fois, oui, aux atmosphères, à ce qui se joue, aux relations, aux intonations, etc. Comme si j'avais cherché des espèces de signaux avant-coureurs ou précurseurs, des signaux d'alerte à certains moments. Voilà, je peux dire ça. Par ailleurs, oui, encore une fois, l'un comme l'autre, ils ont été des... Il y avait de l'amour, et c'est beaucoup.
du côté maternel, Delphine de Vigan, il y a une tribu flamboyante, pleine de panache.
Oui, tout à fait. Je l'ai raconté aussi dans le roman. Malheureusement, la plupart des frères et sœurs de ma mère ont aujourd'hui disparu. Mais oui, c'était donc une famille de 9 enfants extrêmement fantasque, fantaisiste, pleine d'imagination, de joie, avec un sens absolument incroyable du récit, de l'anecdote, un plaisir de raconter. Ça, c'est quelque chose qui était très présent chez mes grands-parents, les deux d'ailleurs, qui avaient toujours un grand plaisir à nous raconter des histoires les plus tragiques comme les plus comiques. Aller chercher une baguette à l'autre bout de la rue pouvait devenir quelque chose de tout à fait épique. Évidemment, toute la mythologie familiale, comme il y en a dans toutes les familles, avec nombreux récits. Ça a beaucoup compté, je pense, d'entendre mes grands-parents et les sœurs de ma mère raconter des histoires, avoir tant de plaisir à les raconter, avoir cette fantaisie dont j'ai tout à fait le sentiment d'avoir hérité.
Et en même temps, au milieu de cette tribu, vous dites que vous êtes une enfant d'une timidité maladive, une enfant qui peut avaler sa fève de la galette des rois. Pourquoi avaler la fève de la galette des rois, Delphine de Vigan, et pourquoi cette timidité?
J'étais vraiment timide quand j'étais petite fille. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'en plus, pour le coup, j'ai vraiment plutôt le souvenir d'avoir été une enfant, mise en valeur, valorisée, etc. Non, je ne sais pas très bien d'où ça venait, mais j'étais surtout timide face au groupe, face au collectif. Par exemple, prendre la parole devant la classe, réciter une récitation, des choses comme ça, ça pouvait me mettre dans des états absolument invraisemblables dans les nuits qui précédaient le jour où on récitait, par exemple, quand j'étais à l'école primaire. L'idée que cette fois, la semaine dernière, c'était une telle, un tel, donc c'est sûr, cette fois c'est pour moi. Voir la maîtresse ou le maître, comme on disait à l'époque, faire courir son stylo le long de la liste d'appels, des choses comme ça, ça me mettait dans tous mes états. Et puis... par exemple, ce moment des anniversaires où toute l'attention est portée sur vous parce que c'est on a jusqu'à un certain âge, je pleurais en fait quand j'étais petite fille au moment où on venait avec moi, vers moi avec les bougies, c'était trop d'émotions, je me mettais à pleurer.
Et c'était des pleurs de joie.
À la fois d'émotions et de ne pas supporter toute cette attention collective portée sur moi. Alors que je pense pas avoir été si timide dès l'enfance dans les relations en plus petits comités, par exemple dans le tête-à-tête ou des choses comme ça. Je me suis assez vite sentie à l'aise dans le tête-à-tête. C'était vraiment par rapport au groupe et beaucoup dans tout mon cursus scolaire, l'idée de prendre la parole devant les autres. Ça, c'était très compliqué.
Vous avez 13 ans lorsque votre mère est hospitalisée pour ce qu'on n'appelle pas encore la bipolarité, Delphine de Vigan, vous en avez parlé. Jusqu'alors, quels sont les signes de la maladie? Est-ce que vous étiez une petite fille en alerte par rapport à d'éventuels signes?
Oui, je dirais, en tout cas, dans les deux années qui ont précédé cette crise maniaque qui l'a conduite à être hospitalisée. Ma mère est entrée à ce moment-là dans un état dépressif. En fait, ça a correspondu à un moment où on a déménagé. Nous vivions ailleurs, dans l'Essonne. Et de cette période, j'ai des souvenirs assez doux. À la fois d'ailleurs d'une très grande liberté de mouvement que nous avions à l'époque quand nous étions enfants, que les enfants d'aujourd'hui probablement n'ont plus d'ailleurs, de vivre un peu dans la rue comme ça, d'aller d'une maison à l'autre, chez les uns, chez les autres, etc. Et à ce moment-là, ma mère était une espèce de... D'abord, c'était une très jeune maman dans le quartier par rapport aux autres mères. Et puis, elle était très belle, elle travaillait à Paris, elle prenait le train, etc. Donc j'avais l'impression que ma mère était entourée d'une aura. Enfin, j'étais très, très fière d'une certaine manière, même si, par ailleurs, jusqu'à un certain point, on n'avait pas très bonne réputation parce que c'était les années 70, donc il y avait beaucoup de gens qui passaient chez nous, etc. Et puis ma mère était un peu hippie. On avait une 403 peinte en vert pomme, on avait le droit de dessiner sur les murs. C'était plutôt assez bordélique dans notre maison, donc, etc. Mais à ce moment-là, non, je pense qu'elle allait encore plutôt bien. C'est vraiment quand on a déménagé donc à Bagneux, tout près de Paris. Et pour moi, c'est vraiment c'est là que sont apparus les premiers signes d'une dépression, sans doute, où elle exprimait quand même un désir de mourir déjà à l'époque. elle l'avait écrit, voilà, c'était quelque... Et puis à partir de, enfin en tout cas pour ma part, ça a été le moment à partir duquel quelque part quelque chose s'est rompu dans notre relation. Elle fumait beaucoup de haschich et de cannabis. Et puis moi, j'arrivais au moment au collège où on vous explique que la drogue, c'est très mal, c'est très dangereux, etc. Par ailleurs, je pense que je percevais assez bien. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que j'ai commencé un journal intime. Donc finalement, ce que je vous en dis aujourd'hui, c'est presque les traces que j'y retrouve très précises dans mon journal. Je percevais son absence. Je percevais le besoin qu'elle avait de ce moment et le fait que, à partir, voilà, j'avais le sentiment qu'elle était là sans être là. Je sentais sa fragilité. Elle l'exprimait. On vivait avec ma sœur, mais je ne veux pas parler pour elle parce qu'elle n'aime pas que je le fasse. Donc voilà, mais pour moi, c'était oui, en tout cas, les premiers signes, ils étaient là. Et sans doute, une anxiété. Enfin, je me souviens de la peur de rentrer chez moi, la peur de la trouver morte, etc.
Ah oui, déjà. Ouais. Vous parlez de ce journal intime, Delphine de Vigan. À quel âge le commencez-vous? Et est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Et qu'est-ce que vous écrivez dans ce journal?
Alors, je le commence à l'âge de 12 ans. Je l'ai encore. Hein. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Parfois, je me dis, il faudrait, parce que j'ai écrit pendant très longtemps ce journal. Et il commence justement après une dispute avec ma mère. C'est vraiment un journal d'adolescente, en colère, révoltée. Donc j'écris à une amie imaginaire qui s'appelle Julia. Et le journal commence, chère Julia, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, elle ne comprend rien. Et puis de toute façon, elle a dit ci, elle a dit ça. Enfin voilà, c'est en termes de style d'une platitude absolue. Il n'y a aucune recherche littéraire. Et c'est beaucoup dans cette première année du journal, beaucoup quand même cette détérioration quelque part de la relation avec ma mère et à l'époque je n'ai pas beaucoup de discernement, les choses sont très tranchées pour moi et je manque sans doute aussi d'informations en fait sur ce qui se passe donc et c'est beaucoup ma colère par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle est, l'état dans lequel elle est, etc. Avec pas beaucoup, encore une fois, de compréhension, malheureusement.
Dans l'enfance et l'adolescence, Delphine de Vigan, quel rapport entretenez-vous avec l'école, l'apprentissage, les enseignants, les autres élèves?
À l'école primaire, j'ai vraiment de très très bons souvenirs. En plus, j'ai rencontré une de mes amies d'enfance à cette époque-là, qui est toujours mon amie et que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, au collège, je rencontre une autre amie d'enfance qui reste aussi parmi mes plus proches. Alors le collège, j'étais une élève assez... En primaire, je pense que j'étais vraiment plutôt bonne élève. On me disait un peu tête de lidote parce que j'avais tendance à rêvasser. Le collège, c'est plus compliqué. Les trois années de collège à Bagneux, je ne travaillais pas en fait. Hein. J'avais pas vraiment de préoccupations par rapport à l'école. Je vivais pas mal sur mes acquis, donc dans certaines matières, notamment le français, ça se passait très bien. En plus, j'ai souvenir vraiment d'une professeure de français très très formidable. Et c'était un collège qu'on dirait. Enfin, je sais pas s'il était en zone d'éducation prioritaire, mais aujourd'hui, il le serait probablement. Enfin, les profs, on a une prof d'allemand qui ne faisait pas cours pendant 3 ans. On a une prof qui ne faisait pas cours. Elle venait, elle s'asseyait et puis il se passait plus rien. Donc Et donc voilà. Mais c'était pas du tout. J'avais pas beaucoup de préoccupations. Je faisais vraiment le minimum, je dirais. J'avais à la fois une vie. Je lisais pas mal hein, déjà à l'époque. Comme on n'avait pas la télévision, je fabriquais beaucoup de choses aussi. Je faisais des perles, je faisais des peintures, des choses comme ça. Donc, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, mais pas tant que ça à l'école. En revanche, à partir du lycée, là, quand je suis arrivée, notamment quand je suis arrivée en Normandie, là, j'ai vraiment eu d'abord la chance de rencontrer des professeurs formidables. Et puis, là où j'étais sans doute un peu sur une mauvaise pente, parce que quand j'étais en troisième, avant qu'on parte en Normandie, je commençais à sécher les cours, etc. Là, quand je suis arrivée en Normandie, le collège et le lycée c'est à L'Aigle, dans l'Orne. Un peu au milieu de nulle part. Donc à part une boulangerie qui devait être à 400 mètres, il n'y avait rien, il n'y avait pas de café pour sécher. Donc ça ne présentait aucun intérêt de sécher les cours et puis ça ne se faisait pas. Et puis par ailleurs, les cours étaient assez passionnants pour la plupart. Donc je me suis vraiment prise au jeu à ce moment-là. Et j'ai au contraire, c'est marrant parce que je n'en avais pas un souvenir si précis, mais je pense que j'ai vraiment surinvesti la question scolaire à ce moment-là. Probablement par rapport à ce qui se passait aussi au niveau familial. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est à partir de ce moment-là d'avoir vraiment accroché avec les études. Notamment, j'ai eu un professeur de lettres auquel j'ai souvent rendu hommage, qui s'appelle Monsieur de Rivry, qui est encore en vie. Et ça m'est arrivé une ou deux fois d'échanger avec lui, qui était un formidable professeur de lettres et qui m'a vraiment donné le goût de la littérature au lycée de l'Aigle, hein, donc au lycée Napoléon de l'Aigle. Voilà, je n'avais pas souvenir que c'était si important. Et il se trouve que parmi mes amis d'enfance, plusieurs ont gardé toutes les lettres qu'on s'écrivait à cette époque où j'ai quitté la région parisienne. Et il y a, je sais pas, quelques 2 ou 3 ans de ça, deux d'entre elles m'ont confié pendant quelques temps les lettres que je leur écrivais à cette époque. Et j'ai été assez stupéfaite de voir que, en plus, il y avait un décalage total entre ce que je vivais et ce qu'elle vivait, et de voir à quel point j'avais vraiment investi la question scolaire à ce moment-là, à quel point c'était important pour moi de travailler, d'apprendre, d'avoir de bons résultats, d'avoir le bac. J'avais pas un souvenir si précis.
Et du coup, ça, c'est à partir de 13 ans de l'hospitalisation.
13-14 ans, ouais.
D'accord.
Ouais, ouais.
Et donc, c'est fin de collège.
Fin de collège, c'est... voilà. On est parti. Enfin, donc, ce départ très précipité, ça s'est passé pour moi, c'était fin janvier, durant ma classe de 3e. Avec un changement de vie très radical, puisque à ce moment-là, on avait déménagé avec ma mère, on venait de s'installer à Paris, dans Paris, pour la première fois, rue du Faubourg-Montmartre. Et donc là, je venais de changer de collège, je m'étais fait de nouveaux amis. Les amis, ça n'a jamais été compliqué, hein. J'ai toujours eu des amis partout où je suis passée. Mais voilà, je venais de rencontrer des nouveaux amis, je commençais, comme je vous le disais, à sécher un peu les cours, etc. Et puis là, bah, du jour au lendemain, ma mère a fait cet épisode maniaque qui nous a conduite à partir. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qui m'a fondamentalement marquée. Et de se retrouver comme ça, on est parti en week-end chez notre père et on est parvenu pendant 2 mois et demi avant de pouvoir récupérer des affaires, etc. On est parti en week-end et quelques jours après, on changeait d'école, on changeait de collège. Moi, je changeais de collège. Et je me retrouvais, j'avais l'impression d'être un extraterrestre qui arrivait sur une autre planète. J'étais parisienne malgré tout, j'arrivais dans ce collège précédé d'une réputation, sa mère est folle, etc. C'était quand même quelque chose d'assez violent. Et à partir de là, c'est vrai que je sais pas, ça s'explique sans doute d'une manière ou d'une autre, mais l'école est devenue vraiment importante. Ça a été à la fois être au collège, être au lycée, y passer du temps, nouer en effet des amitiés et en même temps travailler, apprendre.
Vous avez relaté votre anorexie, Delphine de Vigan, dans Jour sans fin, votre premier livre publié en 2001. Quel âge avez-vous quand commence cette anorexie ? Où vivez-vous au moment où cette anorexie surgit ?
Alors en fait, donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Je suis revenue à Paris dans l'été qui a suivi. Je suis rentrée en hypocagne. Et c'est là que l'anorexie a commencé doucement, alors très insidieusement au départ. Je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que peut-être l'année d'hypocagne, j'ai perdu un peu les rondeurs adolescentes. J'avais eu un gros chagrin d'amour l'été du bac, en fait, une histoire d'amour que j'aimerais bien écrire un jour d'ailleurs. Et voilà. Et puis c'est vraiment à partir de l'année de cagne que je pense que j'étais vraiment rentrée dans la. Enfin, les symptômes étaient beaucoup plus flagrants, etc. J'ai énormément maigri. J'ai perdu, je sais plus, 25 kilos, si ce n'est plus. Donc, voilà. Et j'ai été hospitalisée à la fin de la cagne. Voilà.
Et vous viviez seule, d'ailleurs?
Alors, en fait, quand je suis rentrée, j'ai vécu chez ma mère pendant quelques mois. Ma mère, donc, qui était restée à Paris. Et malheureusement, assez vite, quelques mois après mon retour, elle a été de nouveau hospitalisée. Elle a fait de nouveau un épisode maniaque, assez important. Donc, j'ai continué à vivre chez elle tout le temps où elle a été hospitalisée. Elle est restée plusieurs mois à ce moment-là à Sainte-Anne. Et quand elle est revenue, je suis partie en me disant que je ne voulais plus vivre avec mes parents et que voilà qu'il fallait que je trouve moyen de me mettre à bonne distance, on va dire. Donc ensuite, ça a été un peu. J'ai cohabité avec une amie à moi, une de mes amies d'enfance. On avait sous-loué un appartement. Un HLM qui était à prix tout à fait dérisoire. En fait, c'était un HLM qu'occupait une des sœurs de ma mère. Mais comme elle était partie dans le sud, elle nous avait dit « vous pouvez vous installer là ». Le loyer était vraiment pas cher, je sais plus, c'était 500 francs pour un 3 pièces. Mais vous n'allez pas pouvoir rester longtemps parce que on va être dénoncé. C'était exactement ce qui s'est passé. Mais on a tenu 6 mois. Et puis après, j'habitais l'année de Macaigne. Je louais une chambre chez une autre amie dont les parents étaient partis et qui vivait seule dans cet appartement. Au début, je louais la chambre et puis ensuite, j'y étais symboliquement hébergée en échange de travaux de repassage pour sa mère.
Comment expliquez-vous cette anorexie, Delphine de Vigan ?
Oh là là, c'est vraiment, y a plein de facteurs, je pense, et c'est vraiment avec le recul. Et ça, c'est une des choses qui me fascine complètement dans la vie, c'est la manière dont on revisite les événements importants qui nous ont fabriqués, non pas pour les réinventer, mais parce que notre regard change, parce que la maturité nous apporte des éclairages, la vie, la maturité nous apporte des éclairages nouveaux. Je l'explique, c'est sans doute peut-être la première chose, c'est cette espèce de sensibilité extrême qui était la mienne, qui reste la mienne, mais que je n'avais pas du tout apprivoisée à l'époque, qui était insupportable, en fait. Je ne savais pas quoi faire de ça. J'avais le sentiment d'être tout le temps surexposée, d'être à vif, de ne pas avoir de barrière de protection. Or, l'anorexie, enfin l'état de dénutrition, le jeûne, ça crée des choses d'un point de vue physiologique qui peuvent vous donner le sentiment de vous protéger. C'est-à-dire qu'on c'est comme une forme d'anesthésie. Je pense que d'ailleurs, c'est assez proche de certains états que peuvent provoquer certaines drogues. Donc ça donne un sentiment comme ça de fabriquer autour de soi une espèce de carapace. Ça donne aussi un certain sentiment de puissance.
De contrôle également.
De contrôle, bien sûr. On croit pouvoir contrôler l'angoisse. Or, finalement, elle vous attend dans l'ombre multipliée par 100. Mais voilà, il y a une espèce d'illusion dans un premier temps, dans l'état de maigreur, de dénutrition, et ce qui se passe chimiquement dans le cerveau quand on est vraiment comme ça, le jeûne vraiment provoque quelque chose de très particulier. Il y a une forme sans doute de dépendance à cet état, et encore une fois qui donne vraiment le sentiment de se protéger, alors qu'au contraire, il vous enferme. C'est vraiment une prison. Après, bien sûr, il y a sans doute d'autres raisons, ce chagrin d'amour, évidemment, la relation avec mes parents, etc.
Et vous dites qu'un médecin vous a sauvé la vie ?
Oui, je l'ai raconté dans Jour sans fin. Oui, c'est vraiment la rencontre avec ce médecin c'est-à-dire que j'avais vu une psychiatre, j'étais suivie en psychothérapie à ce moment-là, mais je ne trouvais pas le déclic. Je ne voulais pas être hospitalisée en psychiatrie parce que ça m'aurait vraiment donné le sentiment de marcher dans les pas de ma mère et j'avais très peur de ça. C'est souvent le cas dans l'anorexie, il y a une forme de lucidité qui fait que, après tant tout contrôler, on dit mais non, ça va, au bout d'un moment, à 35 kilos, bah non, ça va pas du tout. Et j'ai rencontré ce médecin qui a vraiment trouvé les mots pour m'expliquer d'abord ce que je vivais et pour me convaincre d'accepter de l'aide. Et quand le jour où j'ai senti que j'allais mourir, au début j'ai dit non, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai dit non. Et puis le jour où j'ai senti que j'allais mourir, c'est lui que j'ai appelé.
Merci beaucoup Delphine de Vigan. Nous nous retrouvons demain pour parler de l'écriture de vos livres. C'était À Voix Nue, chargé de programme Daphné Abgral, réalisation Luc-Jean Reynaud, prise de son Martin Troadec, une série de Corinne Renoux-Nativelle disponible sur le site et l'application de Radio France.